Bonjour, soyez les bienvenus dans la bande originale avec le meilleur de cette bande, Leïla Kadoboudadi, Daniel Morin, Tom Villa, Frédéric Sigrist. Au programme aujourd'hui, Teddy Riner, la bande originale de Danny Boone et de Laurence Arnay, les lives de Julien Doré et Patricia Cass. C'est maintenant et c'est tout de suite. Ça va Teddy?
Ça va.
Bien?
Oui, super.
Ah ouais, je vois, en pleine forme. Vous êtes dans quelle phase d'ailleurs? Dans la phase je dois me surveiller ou je peux me lâcher?
Dans la phase je me suis lâché et je dois me surveiller.
Je me suis lâché, je me surveille.
Voilà, parce que là j'ai atteint un petit pic qu'il faut stabiliser, je dirais. Hein, les vacances se passent bien, mais il faut faire attention.
D'accord. Savez-vous, cher Tom Villa, pourquoi on a invité notre beau et monstrueux, génial, l'homme le plus fort du monde, Teddy Riner?
J'en ai peur.
Oui et non. D'un côté, je vois parce que.
J'ai déjà dit l'homme le plus fort du monde, tu vois. Il faudrait que ça te calme au niveau d'un.
D'un côté, je vois parce que vu que.
Il vient de rayer tout un paragraphe.
Vu que Daniel insulte tous les jours de petits zizi, je suppose qu'il va y avoir un petit règlement de compte.
Normal, c'est normal.
Et en même temps, non, parce que. Bah, heureusement que vous n'animez pas Stade 2, Nagui. Parce que recevoir Teddy Riner 2 mois après sa médaille olympique, au niveau de l'actu.
On n'est pas au point de l'actu, ça.
Non, la semaine prochaine, on a qui? Je sais pas, Bernard Diomède pour parler de la victoire de la France contre le Brésil en 98. Marielle Guachel pour les JO d'Innsbruck. Non, en tout cas. Notre invité de ce matin est grand, fort, guadeloupéen, c'est-à-dire l'exact opposé de Mimi Mati, c'est Teddy Riner. Teddy, c'est 2m04, 130 kilos, hein, la taille d'une armoire.
Non, 130, 140.
Oui, c'est mieux.
140 kilos, 140. La taille d'une armoire, le poids d'une moto. Vu sa carrure, pour lui, un kangou, c'est une smart, et une smart, c'est un skateboard, un pointure 49. Ça veut dire qu'en un seul coup de latte, il peut te péter le nez et les joyeuses en même temps. Hein, et pourtant, il combat avec un peignoir volé dans un hôtel et une ceinture de sécurité de bagnole. C'est très très fort. Non mais regardez son palmarès, c'est impressionnant. Double champion olympique, octuple champion du monde, quintuple champion d'Europe. Pourtant, il a toujours pas été chopé en boîte de nuit avec une prostituée mineure. Moi, je trouve ça bizarre. Teddy, quel honneur de vous recevoir. Quel plaisir déjà de se retrouver entre judokas. Non, attention, je déconne pas. Moi, j'ai fait du judo de mes 6 ans à mes 8 ans. Je faisais la ceinture.
J'ai mis un pull bleu blanc rouge pour faire argent.
Non, mais c'est vrai. Moi, j'étais nul en judo, on peut se le dire. Bon, je crois que ça se voit. J'ai quand même réussi à finir médaille de bronze alors qu'on était 2 dans ma catégorie, tu vois. Les plus de 17 kilos. Teddy, vous êtes l'ambassadeur des journées nationales de l'arbitrage qui ont eu lieu du 25 au 31 octobre. C'est beau. Voilà, vous êtes le parrain des arbitres. Bernard Tapie, il les payait. C'était une sorte de parrain aussi, Bernard, mais à sa sauce. Hein. Non, en fait, ils vous ont demandé à vous d'être leur ambassadeur pour pouvoir dire, les gars, si vous nous emmerdez sur le terrain, faites gaffe, j'ai le numéro de portable de Teddy Riner. Moi, je vois que ça. Même Serge Aurier, il fermerait sa gueule. Alors, l'arbitrage, c'est vraiment un métier un peu bâtard. J'ai l'impression qu'arbitre, c'est comme président de la République. Les gens se souviennent que du négatif. C'est vrai, l'arbitre, c'est lui qui s'en prend plein la gueule, mais que si tu perds. Parce que si tu gagnes, même si c'est mal arbitré, bon, c'est pas grave, tout le monde s'en fout. Mais il faut être reconnaissant. Soyons honnêtes, arbitre, c'est un sportif qui a un peu raté sa carrière. Si, vous connaissez un gamin de 8 ans qui se lève le matin et qui dit « Maman, je veux faire arbitre plus tard ». Ben non, moi plus tard, je vais être habillé comme un vendeur de chez Footlocker avec un sifflet. Et si je fais une erreur, il y a 50 000 personnes qui m'ordonnent d'aller aux toilettes. Non.
Avec
non.
Marqué de la poste sur l'épaule.
La poste sur l'épaule. Voilà, ou pitch. Non, moi je pense pas. En revanche, un arbitre, c'est un sportif raté peut-être, mais qui a fait des études. Il sait qu'un carton jaune plus un carton jaune, ça fait un carton rouge. Et ça, c'est très fort. Bon, faut lui mettre les couleurs. Ces journées de l'arbitrage ont pour but de promouvoir l'esprit sportif au sein des fédérations. Ça, c'est super. Super.
Contrairement à ce que tu viens de faire, salaud.
Non, mais c'est super parce qu'il y a encore des sportifs qui pensent que l'esprit sportif, c'est le slogan d'une marque de basket, donc c'est bien de le rappeler. Bref, je sais pas si j'ai tout compris, Nagui, mais si vous ne dites pas au chiotte l'arbitre ou au chiotte Teddy Riner, a priori, vous devriez en rester en vie ce matin et aux journées nationales de l'arbitrage.
Merci Tom Villa.
France Inter, le best-of. La
bande elles ont lieu pendant une semaine, c'est journée nationale de l'arbitrage, mais concernant tous les sports, que ce soit foot, rugby, hand, basket, on parle évidemment de du judo. Est-ce que
ça s'est bien passé?
Teddy, l'important, oui. Ouais, bah, évidemment, oui, ça se passe bien.
Bien sûr,
évidemment.
Ça s'est bien passé.
Mais dès l'instant où il y a un truc éducatif, dès l'instant où il y a, comme ce que vous avez fait avec votre sponsor Adidas aussi, pour montrer ses
pour les jeunes,
ouais.
Créateur Arena.
C'est, vous êtes le premier à vous amuser comme un potage.
Ah oui, j'ai adoré parce que l'univers qu'ils ont réussi à réaliser en haut de cette école, c'était juste exceptionnel. Les gamins, ils étaient comme des dingues. En plus, il y a eu chanteur qui est venu.
Non, c'est pas les gamins qui sont comme des dingues, c'est vous.
Mais moi, je suis
vous
un gamin. J'ai adoré. J'ai marqué deux buts.
Malgré les deux pieds que vous avez.
Voilà, malgré les deux pieds que j'ai. Non, j'étais très content.
Plus de surface pour toucher le ballon.
Très petit, c'était des petites caisses.
Non. Et puis, à propos de ses pieds et du football, il y a un documentaire qui va sortir le 1er décembre. Doc était passé sur Canal. Qui s'appelle Dans l'ombre de Teddy Riner. Où on vous voit jouer au foot.
Heureusement qu'il y a le judo.
Oui, fallait faire un choix.
Il y a des débordements quand même, mais le pied gauche, c'est pas votre truc.
Non, moi c'est le pied droit.
Ouais, et encore.
Ouais, j'ai de la chance parfois, tu vois.
Et pourtant, les jambes ont été l'une de vos premières qualités au judo.
Ouais. Les jambes, en fait, j'ai commencé par l'athlétisme au départ. Ouais. Et puis après, c'est vrai que ça a été mon point fort jusqu'à maintenant, c'est mon point fort. Mes jambes, c'est elles sont dynamiques, rapides, et c'est ce qui fait que j'ai un petit temps d'avance sur mes adversaires à chaque fois.
Vous pourriez faire un bon joueur de rugby, non, en première ligne.
Pourquoi pas, on me le dit souvent, mais j'ai jamais essayé.
Ouais.
En tout cas, vous êtes un sprinter.
À mon avis, la mêlée, ça va être l'angoisse.
Il y a un truc auquel j'ai pas pensé, monsieur dame, vous pouvez mettre sur silencieux, si vous voulez, parce qu'on entend tous les SMS qui arrivent, tous les textos, tous les machins. Donc je suis ravi d'entendre toute l'émission. Donc s'il vous plaît, mettez-vous sur silencieux.
Et en plus, un peu de respect aujourd'hui, on est le 2, c'est la fête des morts, donc voilà. Sur
comment
silencieux.
Il pète l'ambiance.
C'était pas hier, j'en sais rien.
Non, c'est la fête des saints hier, aujourd'hui c'est la fête des morts.
Les saints et les morts, d'accord.
Oh, Nagui.
Ouais,
il se renseigne, Daniel, parce que c'est pour bientôt.
Oui, moi je suis. J'ai pas prendre une option, moi.
Donc,
c'est Rock Éclair qui m'envoie un texto.
Oui, j'arrive. Reparlons de l'arbitrage, parce que vous n'avez pas toujours été l'ami des arbitres. Il y a eu en 2010.
Ouais, en 2010, oui, j'ai eu un gros incident, je dirais. C'est que je perds à cause d'une décision arbitrale qui m'a un peu déplu. Parce que je me suis fait voler, oui. Et j'étais un petit peu jeune, mais ça m'a grandi, ça m'a permis d'être aussi ce champion que je suis devenu aujourd'hui. Je pense que si j'avais gagné ce titre, peut-être que je n'aurais pas été champion olympique en 2012, peut-être que j'aurais pas été champion olympique en 2016 et j'aurais pas gagné tous ces titres mondiaux. Voilà.
Donc vous vous dites que finalement...
Ça a été un mal pour un bien.
D'accord, la défaite a été un mal pour un bien, mais l'erreur d'arbitrage...
Du coup, ils ont changé l'arbitrage. Avant, il y avait 3 arbitres, et à partir de ce problème, il y a eu un arbitre. Et du coup, il n'y a plus jamais eu de décision arbitrale.
Parce que le paradoxe, c'est que plus il y a d'arbitres, on aurait l'impression, moins il y aurait d'erreurs. Ouais, c'est ça. Alors que s'il n'y en a qu'un, l'erreur est humaine, il y en a un qui se trompe. Et puis,
Alors que là, maintenant, oui, il y a la vidéo qui a été rajoutée.
Voilà.
Ils ont mis un arbitre et à la fin du combat, c'est plus les arbitres qui décident.
Donc alors, vous faites...
C'est-à-dire, le golden score, c'est nos limites. Ça peut durer 30, 1 heure, 2 heures. Tant qu'il n'y a pas...
Le golden score qui serait équivalent du but en or pour le
exactement.
Foot. Et ça serait le premier point marqué par le judoka, quel que soit ce point-là, serait synonyme de victoire. Mais le paradoxe, c'est que on sort des journées d'arbitrage en disant aux jeunes, comme aux moins jeunes, parce que c'est pas que les jeunes à qui il faut transmettre le respect de l'arbitre
bien sûr,
et de l'autorité, vous leur dites, c'est important, il faut respecter l'arbitre, il fait partie du jeu comme tous les joueurs, comme les poteau ou la mode de terre qui peut détourner un ballon, il faut le respecter.
C'est important, bien sûr.
C'est important. Mais et vous finissez votre raisonnement en disant, mais maintenant, il y a la vidéo, donc c'est super.
Non, c'est pas ça. Mais de toute façon, regardez, si vous vous souvenez, en 2010, j'ai jamais pourquoi je suis dans cette journée avec La Poste, c'est parce que justement, les jeunes doivent comprendre le rôle d'un arbitre et surtout le respecter. Mais moi, dans mon sport, à aucun moment, on peut dérespecter l'arbitre. Il n'y a pas, on va venir critiquer l'arbitre face à face, on va pas dire c'est n'importe quoi. On n'a même pas le droit d'adresser la parole à l'arbitre, sinon on est disqualifié tout de suite. Non, moi, quand il y a eu ce problème, j'ai quitté le tapis. Et là, j'ai dit ce qui n'allait pas. Et j'ai dit aux médias, il y a eu un problème d'arbitrage. Et puis, vous avez vu ma frustration, j'étais dégoûté. Puisque un athlète, et surtout dans un sport individuel, on s'entraîne toute une année, toute une saison pour un objectif, pour la médaille d'or.
Ouais.
Bon, ok, 4 jours avant, j'avais gagné le titre dans ma catégorie. Là, c'était toute la catégorie, mais ça n'empêche. Moi, je m'entraîne, j'aime gagner. Et quand on vous vole la victoire comme ça, ça fait mal.
Comment expliquez-vous, arrêtez de caresser le micro, s'il vous plaît. Comment expliquez-vous, Teddy, que les arbitres, par exemple, dans le monde du football, ne soient pas ou très peu respectés, beaucoup moins, par exemple, que dans le monde du rugby. C'est un sport collectif. On a l'impression que c'est des mouses costauds au rugby. Quand au rugby, une décision est prise rien. Aucun joueur ne discute. Dès qu'il y a un gars qui dit non, mais je comprends pas, me servir, hop, allez, on recule de 10 mètres.
Oui,
non, mais on avance pour l'équipe qui a la pénalité.
Non, je suis tout à fait d'accord.
Alors que dans le football.
Mais parce que
quand il y a pénalty, on n'a jamais vu au monde dans l'histoire du football.
Tout le monde autour de l'arbitre, même
non,
parfois ça pousse.
On n'a jamais vu au monde qu'un arbitre siffle un péno, que les mecs se mettent autour et discutent et que l'arbitre fait ouais, vous avez raison, finalement je le siffle pas. Ça n'existe pas. Donc
c'est
quel vrai. Intérêt quoi.
C'est
comment l'expliquer? Non, mais comment l'expliquer?
Moi je pense que c'est dans les fédérations, c'est des règles à établir. Nous, au judo, très tôt, on arbitre les plus jeunes. C'est obligatoire d'arbitrer. Et moi je me suis initié à arbitrer en arbitre de foot. C'est dur, hein. C'est dur. Moi, au début, je pensais que j'allais reproduire ce que j'ai vu à la télé.
Ouais.
C'est très dur, leur métier. Il faut faire les allers-retours. On court plus que les joueurs même.
Clairement, ouais.
Ensuite, il faut bien se positionner. Il faut siffler au bon moment. Il faut lever les bras. Je pense que tous les joueurs, là, qui critiquent et qui sont tout le temps dans les conflits avec les arbitres, ils devraient s'essayer. Mais ça, c'est dans les fédérations. Il faut qu'ils mettent un règlement où tu veux discuter? Carton rouge, c'est tout. Parce que les jeunes qui sont devant la télé et qui voient à chaque fois affrontements avec l'arbitre, ils reproduisent. Moi, je les vois sur les terrains. Ils reproduisent.
Il faut passer par la sanction.
Mais oui, bien sûr. Nous, on est sanctionnés, nous. Tu parles à l'arbitre juste bonjour ou tu veux lui dire quelque chose?
Ouais, mais à côté de ça, il y a eu, je sais plus que dans quel match, un match du PSG, Thiago Silva, qui est juste quand même le plus gentil des joueurs sur le terrain, qui a posé sa main sur le bras de l'arbitre.
Mais c'est le problème des Brésiliens, ils touchent tout le monde.
Et qui s'est fait expulser. Et qui s'est fait expulser parce qu'il l'a touché.
On touche pas le corps de l'arbitre.
Ouais, je suis désolé, ouais. C'est vrai, t'as pas à le toucher, même si t'es gentil.
Il a vraiment une vie sexuelle de merde.
Moi, je suis fan de lui, mais le règlement, il est pour tout le monde.
Ouais, sauf que sur tous les stades, tout le monde lui met la main sur l'épaule. Enfin, c'est pas.
Il faut arrêter.
Il y a un côté. Ouais.
Mais tu dois pas toucher.
C'est que l'éducation. Donc vous dites aux élèves, aux étudiants, aux jeunes, aux minots.
Mais oui, il faut respecter l'arbitre. C'est le maître du jeu. Moi, mon père m'a toujours dit. Parfois, quand on était devant un match de foot, mais qu'est-ce qu'il. J'étais jeune. Je disais, mon père, il me regardait, il me dit, tu te tais. L'arbitre, c'est le maître du jeu. Tu ne contestes pas. À partir de là, quand t'as compris ça dans l'éducation, tu comprends que voilà, tu dois respecter l'arbitre.
Y compris lorsque l'arbitre se trompe. Il faut quand même le respecter.
L'erreur
même,
est humaine.
Même dans son
l'erreur
jeu.
Est humaine.
Et peut-être qu'il va se tromper de l'autre côté 5 minutes plus tard. C'est le jeu.
Ça peut être à ton bénéfice ou pas.
Okay. Et non, mais de toute façon,
il y a un vrai problème.
Tu as le droit de râler.
Non,
mais pas
le problème, c'est le sentiment d'injustice.
Si on se rappelle d'Alexis Vastine, le pauvre qui s'était fait voler deux fois les Jeux Olympiques à cause d'un problème d'arbitrage. Là, tu dis, c'est pas de chance quand même.
On peut rappeler qui est Alexis Vastine.
C'était un jeune boxeur qui était décédé dans l'accident d'hélicoptère pour l'émission de télé-réalité TF1.
Mais il s'est fait voler deux fois. Le problème, on peut pas dire.
Aux Jeux Olympiques.
C'est pas de chance. Aux Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans.
Ouais.
C'est le mec sur 8 ans, il a deux rendez-vous essentiels dans sa carrière. Sur 8 ans, deux Olympiades.
C'est 4 ans. C'est pareil. Deux Olympiades.
Il a raison, Daniel.
Entre 2008 et 2012.
Deux Olympiades, c'est 4 ans.
D'accord, mais t'as la préparation de la première.
J'adore pour ça. La mauvaise foi incroyable.
Fâchez pas.
Bien joué, Daniel. Je te taperais bien dans la main si t'avais pas la gueule.
Je te rappelle que je suis l'arbitre de l'émission.
Voilà. Je t'ai pas touché.
Tu coupes la parole, c'est carton rouge.
Carton rouge.
Tu me coupes la parole.
Ce que Nagui, c'est si tu le touches pas que t'es viré.
Ça, c'est vrai.
Donc, quand on voit que vous avez comme ça des rendez-vous tellement rares dans votre carrière,
c'est difficile.
L'abnégation, l'effort, le travail. Je rappelle encore une fois ce doc dans l'ombre de Teddy Riner où on vous voit travailler, faire des exercices de gym. Je savais même pas que ça existait pour arriver sur un jour. Où ça se joue en un dixième de seconde et il y a un mec, on sait pas pourquoi, qui se trompe, ok, l'erreur est humaine, ça peut être aussi une forme de paranoïa, il vous aime pas, ou il a entendu dire deux ou trois trucs, ou il est d'un pays qui n'aime pas votre pays,
c'est ainsi possible,
enfin, peu
bien
importe,
sûr,
il y a tellement de paramètres, sur une seconde, de quel droit aurait-il pour ruiner des espérances, une carrière et tant de travail? C'est ça qui me prend dingue.
Mais moi, à partir de ça, en 2010, moi ce que je me suis dit, je ne laisserai plus un combat aller aussi loin. Et je ferai en sorte de décider de mon propre combat.
Plus de place au doute.
Voilà.
D'accord.
Il faut trouver la solution avant.
Et dans le cadre de ce plus de place au doute, est-ce que la vidéo est l'une des solutions utilisées au tennis, utilisées au rugby, utilisées
dans beaucoup de sports
maintenant. Bien sûr. Nous, au taekwondo aussi.
Oui, mais tout le monde va y passer. Mais nous, on l'a mis à partir de ça, de 2010. Et du coup, dès qu'il y a une action litigieuse ou un litige, ils arrêtent le combat. Il y a la table centrale, ils regardent, il y a des arbitres qui viennent, qui regardent et qui disent. C'est pas juste le jugement d'une personne.
D'accord. Et alors pourquoi, à votre avis, au football, ça n'arrive pas encore?
Bonne question. Bonne question. Je pense qu'il y a Mais je pense qu'il y a tellement. Oui, non, mais je pense déjà qu'il y a tellement d'argent que tu peux pas faire n'importe quoi.
Justement, les gens disent il y a tellement d'argent, il y a tellement de magouilles, il y a tellement de gens qui sont achetés ou de matchs pré-joués entre guillemets que voilà, il faut laisser faire comme ça. Et puis il y avait tout le discours de Platini qui disait non, mais c'est la part de jeu, c'est le naturel, c'est l'imprévu.
Possible aussi, je sais pas mon sport, donc je peux pas, je suis pas dans les instants, je peux pas te dire.
Non, mais enfin, vous êtes.
Moi, je pense que la vidéo.
Vous allez le voir souvent le foot aussi. Vous aimez le foot.
Ah ouais, j'adore, bien sûr. Mais après, est-ce que tu peux stopper un match de foot et regarder une vidéo? Je sais pas si ça va vite.
Au rugby, c'est le cas.
Il y
a beaucoup de pauses dans le rugby quand on regarde bien. Le temps qui se repasse.
Moi, je me souviens quand on voit jouer le PSG, il y a beaucoup de pauses aussi.
Je me souviens que d'un truc, c'est que
les mecs sont par terre, ils se roulent pendant 10 minutes. On va dire lève-toi.
Au football masculin, alors que les filles non. Les filles elles font pas de chichi, c'est ça qui est dingue. Au foot, ouais, la finale de la Coupe du Monde contre l'Italie, les images, le coup de boule de Zizou dans Materazzi qui avait insulté sa mère, en l'occurrence, le coup de boule est repassé dans les écrans et c'est pour ça que l'arbitre l'a expulsé. Sinon, l'arbitre ne l'avait absolument pas vu.
C'est l'arbitre assistant déjà qui a signalé, qui l'a appelé. Et après, il
s'est repassé dans les écrans.
Normalement, il ne devait pas être viré.
Sinon, on aurait eu cette Coupe du Monde.
Mais finalement, l'arbitrage.
Moralement, on l'a eu, hein, parce que c'était match nul.
Oui.
Les pénaux, ça compte pas.
C'est comme ça.
Bref. Quel est le planning dans les semaines
Il n'y a pas grand chose. Moi, je suis beaucoup là en activation avec mes différents partenaires. Ouais. Sinon, je suis en vacances toujours. Je profite.
Alors, le prochain rendez-vous.
Le gros objectif de ma saison, quand je vais reprendre, ça va être les championnats du monde 2017 à Budapest. Et avant ça, il va y avoir beaucoup de compétitions, oui, pour se remettre dedans.
Vous arrivez quand même à vous enthousiasmer pour des championnats d'Europe ou des championnats de France ?
Non.
Bien sûr que... Mais j'allais dire, mais en plus, il est honnête. Il est génial. Sérieusement.
Ce mec-là, je pense que tu joues à pile ou face avec lui. Ouais. Déjà, il n'aime pas perdre.
Ça aussi, ouais.
Donc, c'est dans sa nature.
Quand on a été 8 fois champion du monde, 2 fois champion olympique, on arrive à garder cette adrénaline.
La grinta.
Oui. Pourquoi je vous expliquer ? Parce que là, pourquoi je fais déjà une pause, c'est pour récupérer, pour profiter un petit peu, parce que 4 ans, c'est non-stop, ça va être une semaine par-ci, mais c'est pas vraiment une semaine de repos, puisque de toute façon, t'as toujours des activations à faire à droite et à gauche, donc t'es toujours au feu. Là, je profite, j'ai coupé 5-6 mois, c'est mes entraîneurs, ils m'ont dit, coupe. Récupère, ton corps en a besoin, la tête aussi.
Il n'y a pas de danger que le muscle se retrécisse.
Il a perdu. Apparemment, non.
Oui, de toute façon, on fond un petit peu. Le muscle, tu le perds, mais de toute façon, tout se regagne. Et après, moi, je suis un bosseur, je vais repartir sur les chemins de tatami, de l'entraînement, et je vais faire ce qu'il faut pour arriver à mon but. C'est l'objectif, c'est l'envie qui revient.
Il n'y a pas un petit phénomène de dépression, excusez-moi, quand tout d'un coup on est dans une grande activité et physique, parce que ça génère aussi au niveau psychologique un bien-être,
ça sécrète,
et tout d'un coup ne plus être dans cette suractivité physique et médiatique d'une certaine façon, se retrouver tranquille, est-ce qu'on n'a pas un petit coup de déprime ?
Non, pas de la déprime, mais on tourne en rond.
Ouais.
Moi, ça fait une semaine, 10 jours après les Jeux, j'avais déjà envie de faire judo. Et donc oui, c'est
et là j'ai envie de casser quelqu'un.
Ouais, ça me démange quand je vais parfois à l'INSEP pour faire un entraînement parce que je reste pas inactif et que je vois mes potes, j'ai envie de faire judo. Mais le mot d'ordre et les consignes qui ont été passées, c'est tu ne touches pas le kimono avant janvier. Donc du coup, ça me démange, mais c'est bien que ça me démange parce que quand je vais revenir,
quand on ouvrira la cage, le lion sera encore plus féroce, c'est ça.
Voilà.
C'est
et ça. Je vais faire.
Et dans la rue, quand vous croisez quelqu'un, ça vous prend jamais d'avoir envie de faire une immobilisation
quand c'est un mec de la sécurité qui joue à Radio France. Voilà.
En même temps, il est un peu inconscient le gars. Moi, je vois Teddy Riner arriver, je le fais pas chier.
On raconte quand même.
Parce que ça s'est bien fini. Il est juste à l'hôpital, le gars. C'est la journée des morts, il pourrait être ailleurs.
Après, il fait aussi son métier. Il le fait pas de façon très élégante, mais il y a des accès pour le personnel, il y a des accès pour les invités. Moi, je suis pour la concorde dans le monde et la paix entre les peuples.
Je m'en fous, je suis pour la politesse, moi.
Mais bon.
Je suis pour la politesse, alors ta gueule, ok.
Le respect, et, bordel.
Sur un autre ton.
Vos oreilles ont sifflé, Leïla, quand on vous annonçait la venue Teddy Mados.
Eh oui, et Teddy, immédiatement, j'ai pensé à votre sacre. C'était à Rio, aux Jeux Olympiques, bien entendu.
Ça va le faire! Il va y arriver. Il va la décrocher. Oui.
Bravo.
Il est champion olympique. C'est énorme.
Teddy Riner, champion olympique. Deuxième titre.
12 août.
C'est ça. C'est le commentaire de Céline Géraud que vous avez affronté sur un tatami aussi. C'était pas mal.
Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. à se dire qu'on va faire judo ensemble, je ne sais pas.
On va faire judo ensemble, c'est marrant cette
expression. Et le pire, c'est que j'ai fermé les yeux pendant toute la rencontre.
Pourquoi ?
Les mains dans le dos.
Bah, c'était pour lui donner... Non, quand même pas. Non, pour lui donner quand même...
L'avantage.
Voilà, l'avantage.
Oui, parce qu'elle fait à peine 60 kilos. Donc
oui, elle est légère, ouais. Mais c'est une ancienne championne d'Europe. Ouais. Donc oui, elle sait faire judo quand même. Mais c'était marrant.
Et quel rapport vous entretenez avec les commentateurs sportifs? Parce que avec le palmarès que vous avez, je pense qu'ils doivent vous adorer à chaque fois qu'ils vous voient. Il doit y avoir quelque chose d'assez même proche finalement avec le temps.
Oui, bien sûr. Bah du coup, oui, c'est vrai que souvent, avec les années, ils ont des accès plus faciles. Ils viennent sur nos stages. Ils viennent parfois, je les invite dans ma chambre à voir comment ça se passe. Quoi. Ouais. Donc oui, c'est vrai que. Les connaisseurs, ils ont des accès plus faciles.
Vous avez des petits préférés ?
Vous avez une aventure avec Nelson Montfort, est-ce que
c'est
vrai ?
C'est du passé. C'est du passé.
Non.
Vous avez des préférés ? Il y a des commentateurs sportifs qui sont un peu, quand ils sont là autour du tatami, c'est important pour vous de savoir qu'ils sont là. Il y a des petites marottes.
Oui, il y a Olivier Bienfait de l'équipe qui est vrai, même s'il n'y a pas d'actualité, il va venir à l'INSEP pour regarder si tout se passe bien.
Au moins, il fait son boulot. Ouais. C'est-à-dire qu'il est pas forcément là pour le reportage, mais il s'intéresse à l'environnement.
Non, t'en as beaucoup. Les spécialistes de chaque radio ou papier, ils se déplacent. Mm-hmm. C'est vrai que c'est des connaisseurs et ils aiment bien aussi se déplacer pour voir.
Et il y a des baltringues qui ont opinion sur eux et vous dites, mais comment ce mec-là ou cette fille-là a un papier, un crayon, un micro?
Oui, mais j'ai oublié le nom.
Non, mais attends, je fais juste une petite parenthèse, mais ce qui est très drôle, c'est qu'il y a 10 piges, j'étais dans une radio de sport, et mon rédacteur en chef, il m'avait envoyé une conférence de presse de judo, et c'était juste avant Rio en 2007, et il m'avait dit, va interviewer juste Teddy Riner, parce que tu vas voir ce gars-là, il va être très très fort dans quelques années.
Ah d'accord, ah oui, le gars avait le nez, nez creux.
Ouais, je m'en souviens.
Et donc vous avez fait l'interview de
Teddy.
Et tu t'y connaissais en
judo ? Mais attends, t'étais né en 2007 toi ?
Ouais, j'avais 18 ans, c'était mes tout débuts dans la radio.
Incroyable.
Bravo. Ah. Quand je pense à vous Teddy Riner, je pense aussi à un homme qui prend une grande place dans votre vie, un homme que vous voyez sans doute même plus que votre femme. Je comprends pas exactement tout ce qu'il raconte, mais il dégage de lui une forme de sérénité, de détermination, on l'écoute.
Quand on rencontre un japonais, c'est toujours intéressant de le prendre. Notamment Shichinoe qui est quand même assez particulier avec son Ouchi qu'on a vu là sur les 40 dernières secondes, son Uchimata avec sa réaction.
Voilà.
Et puis.
Vous l'avez reconnu,
Franck
Chambilly. Il y a toute une vidéo comme ça où tous les quatre mots, et il en introduit un que je comprends pas, un terme technique. Voilà, c'est ça.
Non, mais c'est pas ça le problème de c'est qu'il a le physique de Popeye.
Il a les oreilles d'un première ligne, attention.
Ouais.
Ouais, non.
Effectivement,
oui. Non, mais c'est surtout physiquement, à côté de Teddy Riner, il fait combien? 1m70?
Un peu moins.
Moins d'un mètre 70.
S'il fait 60 kilos,
c'est son entraîneur. Sauf que dans son regard, sans cette détermination, et je me demande s'il est très dur avec vous.
Il n'a pas besoin d'être dur, puisque moi je suis quelqu'un qui écoute. Et
vous le respectez.
Ouais, je respecte. Et mes entraîneurs me disent à chaque fois, ce qui est bien avec toi, c'est qu'on n'a pas besoin de se bastonner, t'écoutes. Mm-hmm. Et c'est vrai que depuis toujours, j'ai compris que tu veux faire du haut niveau, tu veux la performance, tu dois être une éponge et tu dois écouter les gens qui sont autour de toi.
Ouais, enfin, c'est un peu votre souffre-douleur aussi. C'est-à-dire qu'il y a une scène, toujours dans le doc, dans l'ombre de Teddy Riner, qui est vraiment bien foutu, ce doc. Vous courez après lui pour lui faire des bisous.
Oui, parce que c'est une histoire d'amour aussi, bisous. Après.
Et donc, il est là. Mais arrête de faire des bisous, mais arrête. Et donc, il y a Teddy avec ses 140 kilos sur ce pauvre gars qui doit en faire
60.
Fais-moi un bisou. Et dans le resto, ils sont dans une espèce de café dans un resto.
Au Japon.
Où Teddy va lui prendre la main et t'as tout le personnel qui regarde en disant mais qu'est-ce que c'est que ce couple. C'est extrêmement drôle. Et puis même quand il se fait lui des abdos et quand votre entraîneur fait des mouvements, vous venez lui taper dans le ventre pour qu'il durcisse encore plus ses abdos.
Bien sûr.
Et alors, vous vivez un peu ensemble, quelque part, sur ces périodes-là intenses.
Ah, bien sûr.
Là, tout d'un coup, 6 mois sans lui, c'est-à-dire vous reprenez en janvier le tatami et le coach?
Non, je le vois très souvent. J'étais encore avec lui ce week-end. Et puis, on se tient au courant, on va manger au resto. Non, bien sûr. C'est pas une cassure. Je suis toujours en contact avec lui. Et puis, comme je vous le disais, je reste actif, donc on s'entraîne quand même un petit peu ensemble.
D'accord. Et quand je pense à vous, je pense à votre mental. Vous avez la gagne. En effet, ça m'étonne pas. Si on fait une partie de Uno, on s'entretue. Et je vous imagine, finalement, vous avez une forme de foi, en vous. Et elle vient aussi d'ailleurs, je crois.
Il est formidable d'aimer.
Je l'adore.
Il est formidable.
C'est un chant qu'on peut être amené à chanter à l'église pour des mariages, des baptêmes, qu'il est formidable d'aimer. J'aime beaucoup ce texte. Voilà. Et j'ai trouvé une version en ligne. Qui
ça faisait trop longtemps, j'avais oublié ça.
Ben voilà.
J'avais l'impression que c'était Patrick Bouchité dans
Jésus revient. Jésus.
Et donc cette foi-là que vous avez en vous, alors vous avez tout un staff autour de vous, que ce soit le coach, la psy, tout ça. Et il y a aussi votre foi individuelle.
Bien sûr.
Et ça, c'est important pour le champion que vous êtes, que vous êtes devenu.
Oui, c'est important. Moi, mes parents m'ont mis dans la foi très tôt. J'ai été enfant de cœur, tout ça. Et d'ailleurs, je baptiserai mon fils là-bas, parce que ça me tient à cœur. Dans la même église où j'ai fait toutes mes gammes, j'ai envie de dire, où j'ai été enfant de cœur, où j'ai fait ma confirmation, ma première communion, tout ça. Et c'est vrai que Dieu a une part très importante dans ma vie. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est moi, je le dis, c'est grâce à lui. Oui. Mes parents, oui, mais... c'est lui qui m'accompagne.
Enfin, c'est grâce à lui. C'est grâce à vous, avec la foi que vous avez
voilà,
en lui.
Voilà, tout à fait, bien sûr.
Voilà, c'est ça.
Oui, toi, tu as reformulé pour moi. Merci.
Non. c'est pas lui qui est allé au fight, quoi. Mais est-ce qu'il y a,
beaucoup battu avant, tu sais.
Il y a des moments où de croire permet de se dépasser.
Aussi, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Moi, à chaque fois que je gagne un championnat ou que je réussis quelque chose, je dis merci au Seigneur.
D'accord.
Et comment est-ce qu'on concilie croire en Dieu et monter sur un tatami pour massacrer quelqu'un?
Dieu est amour.
Eh ben, oui, déjà Dieu est amour.
Oui, mais surtout, pas moi. Dieu est amour, pas moi.
Mais surtout,
c'est un sport qui est cadré. Mm-hmm. C'est pas vraiment détruire. On doit mettre son adversaire sur les deux épaules pour marquer des points. C'est pas comme certains sports aux États-Unis où tu dois détruire réellement ton adversaire pour gagner.
Ça serait pas possible pour vous de faire l'ultimate fighting, des choses comme ça?
Non. Parce que je ne conçois pas ce sport. Pour moi, c'est trop violent. Et j'aimerais pas que mon fils fasse ça. C'est pas un exemple pour moi. Mmh. Après, je sais qu'ils vont me tomber dessus. Non, mais je suis pas d'accord. Oui, vous vous dépassez. C'est bien parce que ça vous met dans un sport et vous aimez ce sport. Je ne critique pas ce sport.
Même pour 5 millions de dollars?
On m'a proposé 10 millions.
Ouais.
Mais non.
Ça te calme.
Mes valeurs, c'est pas un sport que je conçois pratiquer.
Ouais.
Mais voilà, je respecte tous ceux qui le font.
C'est pas l'argent qui serait votre moteur.
Non, bah 10 millions. Bah,
10 millions.
Général, non, mais c'est pas ça.
Allô, oui, j'arrive.
Non,
j'ai dit non.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Il nous offre une reprise, en l'occurrence la reprise de Amoureuse, la chanson de Véronique Sanson, interprétée par Julien Doré.
Serre tout contre lui. quand je sens que j'entre dans sa vie. Je prie pour que le destin m'en sorte. Je prie pour que le diable m'emporte. Ah. Et l'angoisse me montre son visage. Elle me force à parler son langage. Quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin. Et je me demande si cet amour aura un lendemain. Quand je suis loin de lui, oh, je suis loin de lui, je n'ai plus vraiment toute ma tête. Et je ne suis plus d'ici, oh, je ne suis plus d'ici, je ressens la pluie d'autres planètes.
La bande originale, le best-of, sur France Inter.
Voici l'humeur de Frédéric Sigrist.
Bonjour, alors aujourd'hui, bah, leçon numéro 5 du manuel de survie dans l'isoloir. La leçon d'aujourd'hui, c'est en politique, il vaut mieux être dans un programme télé qu'avoir un programme politique. Alors cette nuit, aux États-Unis, avait lieu le premier grand débat opposant Hillary Clinton à Donald Trump. Plus de 80 millions de téléspectateurs.
C'est un échec, ils s'attendaient à 100 millions.
Oui, enfin quand même, c'est énorme.
Ah ouais, c'est un échec.
C'est presque autant regardé que le Super Bowl.
On dirait taratata.
Ouais.
Fallu, ça.
Ah, mais c'est vrai, c'est presque autant regardé que le Super Bowl. Et il faut dire que Hillary Clinton qui tient 25 minutes sans faire un AVC ou Donald Trump sans dire de conneries, c'est une performance physique aussi impressionnante que 60 minutes de football américain. Et c'est là que je me suis dit que la politique finalement c'est un sport. C'est le sport des supporters qui n'aiment pas voir des gens courir. Alors, qui a gagné le débat? On s'en fout, on sait qui perd à la fin, les Américains. Parce qu'une grosse majorité d'entre eux les détestent autant l'un que l'autre. Les États-Unis, en ce moment, ils doivent choisir entre blénorragie ou chlamydia. Alors, si ça ne vous parle pas, imaginez un deuxième tour, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, vous allez comprendre. Alors, Hillary Clinton s'est très bien préparée à son débat avec Donald Trump, déjà en survivant, parce que ses conseillers lui ont dit qu'être morte pouvait constituer un handicap à son élection. Alors, on l'a pas vu, mais à chaque fois que la caméra était sur Donald Trump, un assistant venait donner un strip-seal et de l'humex à Hillary pour qu'elle tienne le coup. Elle a même été coachée par des psys pour s'entraîner à débattre avec lui, tellement le mec est imprévisible, elle a rencontré des tueurs en série, elle a dormi avec des hyènes, elle a tenté de comprendre les questions d'André Manoukian, tout ça pour pouvoir débattre avec Donald Trump. Parce que Donald Trump, c'est très difficile à comprendre les questions d'André Manoukian. Parce que Donald Trump, il a peut-être pas l'expérience d'un grand politicien, par contre, il a présenté une émission de télé-réalité pendant des années, donc si tout d'un coup, il pense que faire du catch avec un nain péruvien unijambiste, c'est plus efficace qu'une analyse géopolitique, il n'hésitera pas. En plus de son côté aussi, il s'était très bien préparé aux questions de fond que pouvait lui poser Hillary Clinton.
Monsieur Trump, comment comptez-vous financer la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique ? Merci. Monsieur Trump, la solution pour résoudre le conflit syrien passe-t-elle par des tractations avec le régime de Bachar al-Assad ?
Il était incollable, il avait bossé tous les sujets. Il avait même préparé une arme secrète pour sécher Hillary.
Monsieur Trump, pouvez-vous nous expliquer pourquoi certains de vos employés n'ont pas été payés pendant des mois ?
Pourquoi vos employés n'ont pas été payés pendant des mois ?
Ah, je vois, vous allez répéter tout ce que je dis.
Ah, je vois, vous allez répéter tout ce que je dis.
Qu'est-ce que c'est puéril !
Qu'est-ce que c'est puéril ! On n'a pas d'équivalent de Donald Trump en France. Il faudrait le créer en laboratoire. Et à mon avis, la recette, c'est ça. Il faudrait un poil de cul de Cyril Hanouna, une dent de Liliane Bettencourt, une mise en examen de Nicolas Sarkozy, un œil de Le Pen. On ajoute une crinière de poney, on mélange au shaker, mettre sous UV pendant 30 minutes et tada ! Un Donald Trump à la française. Alors en France, les journalistes sont extrêmement impartiaux. On traite les deux candidats exactement de la même manière. Si Hillary Clinton est élue, c'est une politicienne aguerrie qui devra peut-être apprendre à se défaire un tout petit peu de sa culture du secret.
Wow.
Voilà. Et si Donald Trump est élu, on fera tous pipi du sang, les bébés naîtront avec deux têtes et des pieds de bouc, mais en dehors de ça, c'est strictement le même traitement médiatique. Et c'est exactement comme moi avec mes enfants. Pas de favoritisme. Je dis toujours à ma fille, sache-le Valentine, je t'aime autant que... C'est quoi ton nom déjà ? Les commentateurs disent « Mais vous vous rendez pas compte, si Donald Trump est élu, les tensions entre communautés vont être terribles, les États-Unis ne vont plus penser qu'à eux et vont vouloir faire la guerre avec la planète entière !» Ah bah comme maintenant en fait, hein, parce que même avec un président noir, les Afro-Américains ne sont toujours pas devenus imperméables aux balles. Hein, et Obama, ça le gêne absolument pas de faire un discours sur la compassion et la paix dans le monde pendant qu'il bombarde Alep en Syrie. Obama, à mon avis, doit réciter du Ronsard pendant la sodomie. La seule vraie différence entre Obama et Trump, c'est que cette fois, leur président aura vraiment la gueule de leur politique. Alors il y a un chiffre intéressant pour mieux comprendre cette campagne. Donald Trump a reçu 74 millions de dons et a investi 54 millions de sa fortune personnelle, tandis qu'Hillary Clinton a reçu 289 millions de dollars de dons de ses compas de Wall Street, Goldman Sachs, Coca-Cola et autres Monsanto. Une Hillary Clinton qui, tout comme Donald Trump, était pour la guerre en Irak. Alors effectivement, Donald Trump est peut-être un cancer, mais n'oublions pas que pour nombre d'Américains, les Clinton aussi sont la cigarette.
Merci.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
C'est ça, faut choisir. Exactement. La bande originale de nos invités, Danny Boone et Laurence Arnay, la politesse, vous voulez d'ailleurs que je dise Laurence Arnay et Danny Boone, sont à l'affiche de Radin, le film qui sort ce mercredi, que l'on vous recommande et qui est un moment agréable à passer. C'est quand même essentiel par les temps qui courent. On vous a demandé quelques musiques que vous pouviez écouter dans des dates où on a essayé de trouver des points communs dans vos différentes carrières. En 2006, par exemple, Danny, vous écoutiez...
Guess to dim my life, I feel this way.
Il sait chanter aussi.
C'est lui qui chante.
C'est pas moi.
C'est la tortue. Milan.
Oui, que j'adore.
C'est vrai ? Vous regardiez beaucoup Nouvelle Star ?
Non, mais je regardais pas, mais j'adore Christophe.
Enfin, vous écoutiez, vous regardiez pas, mais vous écoutiez.
Oui, j'écoutais Christophe. Ouais. D'accord. Et puis après, son l'album qui a suivi, mais c'est le premier single qu'il a fait. Il a une voix absolument magnifique.
Vous réalisez en 2006 votre premier long métrage, La Maison du Bonheur, qui était plus un documentaire sur mes chantiers.
Effectivement.
Non, mais c'était du vécu, vous avez dit, c'est en toutes les interviews.
Ouais.
C'était,
Oui, c'est du vécu, ouais. J'ai fait des travaux et je suis peut-être un des seuls à avoir eu un chauffe-eau qui a pris feu. un ballon d'eau qui a pris feu.
Mais vous vous rendez compte, même là, quand vous le dites, c'est-à-dire que tous les malheurs qui vous arrivent dans la vie font rire, Danny.
Mais depuis le début, hein, je me suis fait attaquer par un chien à mon premier spectacle dans un bistrot, j'en ai fait un sketch, quoi.
Le garage Mercedes,
oui, c'est tout, oui, bien sûr. Autant, c'est important de transformer ça en.
D'accord, mais
de réparer
encore,
en rien.
Encore aujourd'hui, il vous arrive n'importe quoi dans la rue, dans un resto ou autre. Oui. Tout le monde dira, tiens, c'est Danny Boone qui fait un gag, même si vous coupez le doigt au resto, même si vous faites tomber quelque chose.
Ça peut faire Pierre et le loup.
C'est ça.
Mais je, oui.
Alors les goûts musicaux sont légèrement différents, puisque Laurence, elle, en 2006, écoutez. You can take a picture of something you see. C'est du lourd, c'est de la grosse prod. Coldplay.
Ouais.
Tellement bon ça. Vous avez vu sur scène
Oui. Je suis une grande fan de Chris Martin, donc je vais souvent les voir en.
On reste dans le Chris, hein, on reste dans le Chris, des deux côtés. Ah, mais non, mais c'est formidable. Puis lui, c'est un vrai amoureux de la France.
Je suis allée le voir au Royal Albert Hall il n'y a pas longtemps, là. C'était fabuleux. Dernier album.
À quel point la musique est importante pour vous dans votre travail de concentration, dans les moments d'attente que l'on sait particulièrement longs au cinéma pour les réglages de lumière, de.
Après sur un plateau c'est toujours délicat parce qu'il faut pas trop s'isoler. Ouais, mais pas s'isoler non plus de l'équipe. Je trouve que c'est maintenant on est tous avec nos téléphones là, plus partagés ensemble. Mais dans un travail de préparation ou même jour le jour quand on est hors tournage, moi c'est du matin au soir. Ouais.
Dans ces années 2006, vous dites avoir joué devant 4 personnes au début de votre carrière. Le public, c'est un one-man show, le public venait peu à peu.
Ouais. C'était dur, je m'en souviens, parce que même un soir, je voulais annuler, ils étaient 5, et il y avait un mec qui dit « Non, mais attendez, sur Billets Réduc, hier, vous avez joué pour 4 !» Le mec avait dit « Elle a tout donné, on était 4, c'était génial
!» Salut Dominique Farrugia, quand même, qui est le premier à avoir cru en vous.
Ouais. Je le salue.
Et qu'est-ce qui fait qu'on ne lâche rien dans ces moments-là ? Qu'on se dit, c'est mon métier.
Mais non, parce qu'on s'éclate quand même sur scène, même s'il y a 4 personnes et qui sont à fond, moi j'ai adoré.
C'est hyper formateur.
Il n'y a aucun moment où l'on doute et on se dit « c'est pas mon métier, je me suis trompé ».
Bah, pas quand on est sur scène en tout cas, mais peut-être après.
En 2011-2012, Danny Boone écoutait... But don't you remember... Non, non, j'ai dit écouter, j'ai pas dit chanter.
Alors ça, c'est le...
Adèle.
C'est la... Oui, et c'est la première fois où, justement, la douche était réussie chez moi. Et je pouvais chanter dessous sans être...
électrocuté.
Oui.
Vous réalisez Rien à déclarer, un film qui a fait plus de 8 millions d'entrées aux côtés de Benoît Poulvorde. Être réalisateur, auteur, réalisateur, j'ai envie de dire compositeur, interprète, quand on est comédien, c'est beaucoup pour un seul homme, mais c'est un vrai plaisir pour vous, un vrai kiff.
Oui, j'adore. Bah, en fait, c'est l'école du musical. Mais enfin, tout est... J'ai fait du storyboard quand j'étais dans le dessin animé, donc j'étais dessinateur au départ, de la photo, donc je connaissais l'histoire de focale, de matériel, de technique. Et puis voilà, en faisant rire, en étant sur scène, d'un coup je me suis dit, tiens,
on fait un peu tout soi-même aussi sur scène.
Oui, c'est ça, ouais. Au musical un peu, oui. Donc je me suis dit, pourquoi pas, et j'ai essayé avec La Maison du Bonheur, mais j'avais Les Ch'tis en tête. Mais je voulais pas rater un film sur ma région, donc je savais pas si j'étais capable ou pas. Et puis...
Ah, c'était vous, les Ch'tis?
Ouais, c'était moi.
Ah, ok.
Ouais, parce qu'on va, j'ai le 4,
on
voit
pas, mais. On a pas assez bossé l'émission. Il faut qu'on la bosse.
Et voilà. Et d'ailleurs, Benoît Poulvorde, c'est un acteur extraordinaire, d'une grande générosité, mais il était très près de ses soucis. Non, parce que. Non, je dis ça.
Yes!
Non, c'est parce que j'ai une anecdote.
C'est comme ça.
Mais oui, pourquoi
c'est
pas
drôle.
Oui,
c'est un
Benoît. Peu... Non mais Benoît.
Il le sait, non?
Oui, surtout son entourage le sait. C'est le seul. J'ai réussi à lui faire payer un pot en fin de tournage. Je pense que je vais être le seul film parce qu'on était en tournée en Bretagne. Bref, il y avait personne. C'était en plein hiver. Et il y avait un seul hôtel et toute l'équipe cherchait un restaurant. Et je dis, c'est l'avant-veille de la fin de tournage, je dis, bon, j'invite tout le monde à l'hôtel, quoi, au resto. Et donc, je vois avec le patron, on fait un menu, tout ça, et je paye pour tout le monde. Donc, il se lève, il me remercie, il dit, voilà. Et puis, il fait, merci, moi, je vais prendre du homard, il blague, enfin, bref. Et donc, je me lève, je dis, ça tombe bien, parce que demain, je dis, Benoît invite tout le monde. Tout le monde fait, ouais. Et il fait, chiche. Et donc là, devant tout le monde, il a fait, ok, je paye. Sauf qu'il a fait, non, mais on va pas se nourrir, on a qu'à plutôt aller au bar, on fait plutôt un pot où on boit. Il se dit, ce sera moins cher. Et donc, il a donné un budget au patron barman de l'hôtel en disant, je veux pas dépenser plus. Donc, on était là avec l'équipe. Au bout de 10 minutes, le mec a fait, vous êtes au bout du budget. Et là, Benoît a fait, allez, c'est pas grave. Il dit, allez, on y va. Enfin, non, il a dit,
open
bar pour tout le monde.
Ouf.
Sauf qu'il a payé le lendemain. J'ai vu sa tête, c'est extraordinaire. J'ai jamais vu Benoît. Et il en parle encore en disant que je suis le seul à avoir réussi à lui faire payer un pot de fin de tournage.
Mais l'équipe est constituée de combien de personnes? Parce que tout d'un coup, j'imagine.
On est 200 à peu près.
Ouais. Et ouais, quand on paye un coup pour 200, ouais.
On va en reparler de la radinerie et de Radin évidemment dans quelques instants, mais je voulais quand même que l'on évoque un formidable rôle de Laurence Harnais. C'était en 2012 lorsque vous écoutiez Temple Trap. Une belle année 2012 pour vous, ouais. Parce qu'il y a plusieurs très beaux rôles. Il y a un rôle dans Un jour mon père viendra, avec Gérard Jugnot, François Berléand et Olivia Ruiz. François Berléand, ça aussi, on n'en parle pas assez, mais enfin, c'est vraiment quelqu'un de... Enfin bon, bref.
Ah bon. Alors,
non.
Puis méchant. Vous jouez dans
ce qu'il a dit à propos de Danny Boone, c'était gênant.
Oui, c'est vrai. Mais on avait dit qu'on ne le répéterait pas.
Non,
dans
pas,
Dépression et des potes, vous êtes une aveugle particulièrement douée au ping-pong.
Pas d'info,
pour une fois vous n'êtes pas d'info, mais extrêmement drôle, et puis le plus beau rôle, celui de maman.
Oui, mais, oui, tout à fait, mais il y avait eu Bowling aussi, ouais. En fait j'ai tourné Bowling, dans le film je découvre que je suis enceinte, et à la fin du tournage je découvrais vraiment que j'étais enceinte.
Ah waouh.
D'accord, ça c'était pendant le tournage,
ouais.
Ok, de ce film avec Catherine Frou.
Exactement, et Mathilde Seigner.
Voilà, ouais. Formidable, ouais. Et Firmin Richard, ouais. dans lequel...
Qui s'endormait pendant les prises, Firmin Richard.
Ça devait être passionnant.
Mais tu sais, le bowling, c'est pas son truc.
Ouais, un bowling quand tu joues pas, à un moment donné, ouais, il faut. Ouais. Mais non, c'est
faut
un
quoi,
très bon film. Bah t'attends, t'es assis et tu t'enquiquines.
Avec des pompes qui puent surtout. Ouais. Non,
et des mycoses.
Ouais, c'est terrible.
C'est dégueulasse. Il faut absolument mettre d'autres chaussettes ou avoir d'autres. C'est dégueulasse, les chaussures de bowling. Mais c'est quel sport génial. Vous aimez-vous jouer au bowling?
Quel sport génial.
Il y a Guy qui s'emballe.
On va au soir la fête.
Alors, moi, il y a deux trucs qui me gênent, c'est les boutons de cristalline et les chaussures de bowling.
Pourtant, Nagui en porte tous les jours.
C'est les miennes.
C'est les vôtres, c'est vrai.
Parlons donc de Radin, ce film avec Laurence Arnaud et Danny Boone. Revenons au fond du sujet ou au fond du problème, c'est-à-dire cette radinerie. On voulait en parler d'une manière plus, j'ai envie de dire, sérieuse, mais gardons le sourire quand même, oui. Avec Marie-Claude François Augier. Je marque bien un temps, sinon ça fait Marie-Claude François Augier. Là, c'est plus problématique. Vous êtes psychologue, clinicienne et psychanalyste. Je voudrais juste que l'on définisse la radinerie, parce que tout est relatif. J'ai un peu envie de dire, c'est un peu comme la connerie. On est toujours le con de quelqu'un, on est toujours le radin de quelqu'un. On trouvera toujours quelqu'un de plus pingue ou quelqu'un de plus généreux que nous, non ?
Oui, enfin, il y a différents degrés dans la radinerie. Je ne sais pas si vous m'entendez.
Bah, si vous parlez dans le micro, c'est...
Il y a ceux qui sont bons gestionnaires, économes par prudence, voilà. Et puis par crainte de l'insécurité dans les temps qu'on vit. Voilà.
Morin, t'as rien à dire parce que hier, on a bouffé ensemble. Je t'ai invité à manger, tu m'as même pas dit merci.
Quoi ?
À la fin du repas, j'ai payé, je suis parti. Il fait hey, salut à demain.
Vous avez payé quoi, Nagui ?
Le repas que t'as bouffé, salaud.
Ah, c'est vous ? D'habitude, je pars en courant, mais là, c'est pour ça que tu m'as pas couru après. Merci, Nagui.
Non, mais j'ai pensé. C'est un acte manqué de radinerie, peut-être.
Non, c'est Morin. Non, c'est Morin.
Bon, alors, le radin qu'incarne Danny Boone, lui, il est malheureux. Et il est accro, drogué à la non-dépense. Son obsession, c'est de ne pas dépenser.
Alors qu'il est riche, il a plus de 200 000 euros sur son compte en banque. C'est il n'est pas en manque d'argent.
Non, mais lui, il ne veut pas dépenser. Il y a quelque chose qui le paralyse. C'est vrai que vous avez des sueurs froides à l'idée de devoir dépenser quelque chose, d'offrir un pot, je n'en parle même pas.
Non mais ma question,
de prendre un café.
Non mais ma question,
l'enfance, c'est si rappeler, il est traumatisé à la naissance dans le ventre de son père.
Parce que déjà dans le ventre de son père qui lui dépensait
tout. Était un panier percé.
Voilà, la maman lui a dit dans le ventre, promets-moi de pas être comme ton père
voilà.
Et de pas trop dépenser. Non mais ma question c'est est-ce que par exemple lorsqu'on se sert d'un bon de réduction de quelques centimes d'euros quand on va au supermarché, on est radin ou on profite d'une opération commerciale?
Non, pas du tout. Ça, ce sont les nouveaux radins, les consommateurs intelligents. Ce sont des gens qui essayent de faire des économies et de ne pas acheter au prix maximum. Et je trouve ça très bien.
Alors, à quel moment on devient radin? Quel est pour vous le signe?
Quand on est obsédé par le fait de ne pas dépenser. Alors, on ne va pas voir un copain parce qu'on ne veut pas prendre un café et surtout pas partager et encore moins le payer. On se laisse inviter au pot ou au restaurant par les autres.
Donc quand ça a une influence, quand vos économies ont une influence directe sur votre mode de vie et votre relationnel.
C'est l'obsession de l'économie.
D'accord.
C'est l'obsession de ne pas donner, de ne pas partager et de ne pas dépenser. Oui. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est le côté pas d'électricité chez moi parce que je m'éclaire à la lumière du jour ou au lampadaire.
En même temps, c'est joli. Il y a une belle lumière
très
tamisée.
Joli.
Ce qui est moins joli, c'est qu'il a gardé les mêmes meubles depuis que ses parents sont disparus. Ça n'a pas bougé.
Évidemment.
Et comment on appelle quelqu'un qui est capable d'engranger de l'argent, de l'économiser, de le thésauriser, mais de le dépenser en quantité pour lui, mais jamais pour les autres?
Nagui.
Parce que le.
Après ce que j'ai dit, t'es plus crédible.
Parce que dans le film, il dépense pas pour les autres, il dépense pas pour lui, parce qu'il a son vieux costume. Non. Il y a des gens comme ça qui peuvent avoir envie de dépenser pour eux, mais pas vers l'extérieur. Et là, est-ce qu'il y a une nuance ?
Ça, c'est la fermeture totale aux autres.
Ouais.
Ça, c'est de l'égoïsme total. Alors, dépenser pour soi, pour les autres. Oui.
Mon beau-père,
ça balance.
Mais mon beau-père, par exemple, il veut laisser pour ses enfants, donc il voyage en classe éco, il dépense pas.
Donc il se prive
pour
les
enfants en disant oui, je veux laisser enfants.
Ouais, alors ça, c'est le souci de la transmission.
Ouais.
Hein, c'est une économie, mais en même temps, il n'en prive pas ses enfants puisque plus tard, ils auront beaucoup d'argent. Enfin, on espère qu'il peut faire des cadeaux en attendant.
Ou des billets d'avion, enfin des miles. Je sais pas s'ils sont hérités des miles.
Je crois pas.
Ouais, je crois non, pas. Mais il met de côté entre temps ouais, ouais, pour c'est... donner à ses enfants, c'est la transmission.
Laurence Arnay a raison quand elle dit qu'on se prive, enfin, qu'on se, on rate la vie en société quand on est radin, c'est-à-dire qu'on rate le rapport avec, avec l'autre. Mais alors, comment doit-on réagir quand on fréquente un radin ? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit lui faire remarquer qu'il est pingre ? Est-ce qu'on doit le comprendre en disant, bon, bah, c'est son trait de caractère, il faut faire avec ? Quels sont les signaux ? Comment gérer alors, la présence signaux, d'un radin ?
D'abord, le radin, il s'isole, et vous le montrez très très bien dans le film, il y a un repli sur soi qui est total, ouais. Il s'isole, sauf que vous rencontrez votre fille et un grand amour, qui est Laurence, donc là, vous commencez à vous ouvrir, mais vous mettez du temps.
Est-ce que, est-ce que c'est d'ailleurs héréditaire, la radinerie ?
Non, c'est pas héréditaire.
Dans le film, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le fils a le comportement inverse de son père, et visiblement, sa fille aura le comportement inverse de son père aussi, donc oui. Ça change. Est-ce que est-ce que c'est l'éducation qui rend radin ?
Mais simplement, quand on voit un radin, il faut qu'il réfléchisse toujours à la façon dont ses parents jouaient l'argent entre eux, et dont les parents avait un rapport à d'accord. l'argent. Ainsi, la mère, comme votre mère vous dit, ne soit pas quand même parce que le père a tout flambé. Là, on peut s'inscrire exactement en obéissant à sa mère pour ne pas répéter quelque chose qui était dramatique, probablement.
Est-ce que c'est un mal masculin ou féminin, ou on est dans la parité aussi?
C'est universel.
Là. C'est universel. Il n'y a pas de.
Il n'y a pas de genre.
On a l'impression que c'est les mecs qui sont plus radins que les filles.
Ceux qui avaient l'argent pendant longtemps.
Ben oui, parce qu'ils avaient l'argent et qu'on femme de travailler.
T'inquiète pas, les nanas sont en train de rattraper l'écart.
Mais je ne pense pas que le radin ait besoin d'être riche ou pauvre. C'est un état de fait.
C'est un état de fait. Mais alors, on peut ne pas dépenser pour un café.
C'est ça.
On ne partage pas un café.
C'est cher le café pour ce que c'est quand même.
J'ai une question, docteur.
Le médecin de l'âme.
C'est très joli. Non, je voulais savoir parce que ma comment
ma femme,
ma mère. soit l'un soit l'autre. Ma mère justement, elle est pas. Je pense pas qu'elle soit radine, mais au bout d'un certain nombre de places pour mes spectacles ou mes films, elle fait payer la famille. C'est-à-dire qu'elle
comme vous dans le film pour le loyer.
Bah oui, au bout de elle offre 10 places, puis après je lui dis maman, tu peux pas faire ça parce que j'ai signé pour des oncles sur des tickets payants. Je fais mais tonton me dit pas que t'as payé. Elle me dit non, mais il me dit ta mère a dit qu'on dépassait 10 et voilà, et donc il faut qu'on paye. Et j'en ai pas, et ma mère m'a dit, elle me fait arrête, on sait jamais. Donc, on sait jamais. Ouais.
Drôle, je pense que votre maman ne veut pas non plus gêner ou trop taper dans les exos et être un poids pour vous.
Je crois
vous.
Qu'elle a peur que je manque ou que de retrouver une situation.
Bah, vous lui avez dit, j'ai 10 invitations. Voilà, elle respecte la règle que vous lui avez donnée.
Non du tout. Non, elle peut. La famille.
En avoir 11.
Elle a peur de l'insécurité. Elle parce a qu'elle peur a manqué. Du manque, voilà, parce qu'elle
ça.
A manqué.
C'est une génération.
Ouais. Oui.
Il y a peut-être. Alors, est-ce que c'est de la radinerie ? Non, c'est...
Non, c'est de la bonne gestion. Bon, un petit peu quand même resserré.
Quand on
vieillit,
quand même.
Sur le petit clan familial.
Est-ce que c'est vrai, lorsque vous avez eu l'énorme succès, on me le confirme en régie, que vous avez eu un énorme succès avec un film, je crois, qui s'appelait Bienvenue chez les Ch'tis.
Oui,
vous confirmez ?
Je pense, oui, vous ça confirmez. Me dit quelque chose.
Est-ce que c'est vrai que votre maman vous a dit, tu vas quand même pas t'acheter une nouvelle voiture ?
Non, elle m'a dit, je l'ai appelé pour lui dire le soir, quand je lui ai dit, maman, on est en train de faire le plus grand succès de l'histoire du cinéma. Elle me fait, il y a eu un blanc. Achète pas une nouvelle voiture. Hein. Ça a été sa première fois.
C'est génial. C'est génial.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Patricia Cass avec Adèle, messieurs.
Que les femmes vivent depuis que je suis môme, vivent depuis que je suis dame. Allons marcher ma belle, je te donnerai quelques clés. J'essaierai d'être bien précise, comme j'ai pu te ressembler. Allons marcher ma belle, je sais comment te consoler, te montrer que je t'ai comprise. Comme j'ai pu te ressembler, ce sera deux fois plus dur que les autres, mais deux fois plus forte tu l'es. T'inquiète pas, de soutien tu n'auras que le nôtre.
Mais ça suffira, ce sera deux fois plus dur que les autres. Mais deux fois plus forte tu l'es, t'inquiète pas, de soutien tu n'auras que le nôtre. Mais ça suffira, allons marcher à l'aide. Il te faudra bien accepter que c'est plus simple pour lui que pour elle. Mais au diable la simplicité, allons marcher ma belle. Allons courir une glaive à la main. Allons faire mentir ceux qui disent Adèle. C'est comme ça et on n'y peut rien. On y peut, c'est certain. Mais ce sera deux fois plus dur que les autres. Mais deux fois plus forte tu l'es, t'inquiète pas. De soutien tu n'auras que le nôtre. Mais ça suffira, ça suffira. Ce sera deux fois plus dur que les autres. Mais deux fois plus forte tu l'es, t'inquiète pas. De soutien tu n'auras que le nôtre. Mais ça suffira, ça suffira. Ce sera deux fois plus dur que les autres. Deux fois plus forte tu l'es, t'inquiète pas. De soutien tu n'auras que le nôtre. Mais ça suffira.
De la bande originale, ça continue jusqu'à midi et demi avec Michel Blanc en live Tété, mais vous le savez tout de suite sur Inter, quand il est midi, ce sont les infos. Le meilleur de la bande originale, ça continue avec Leïla Kadour-Boudadi, Daniel Morin, Tom Villa, Frédéric Sigrist et notre invité, nos invités, Michel Blanc pour la partie interview et en live, Tété, le meilleur de la bande originale, c'est tout de suite. Dans ce film que l'on vous recommande, film de Pascal Chomeil, réalisateur de L'Arnaqueur, Pascal nous ayant malheureusement quitté le 1er septembre 2015 et il a porté ce film jusqu'au bout et c'est peut-être même le film qui lui a permis de tenir parce que dès l'instant où il a fini le montage, il nous a quitté.
Ouais, enfin, il a fini complètement le film. Oui, mais moi je ne suis pas certain de ça parce que... Il n'était pas conscient, d'après les renseignements que j'ai obtenus de la part de gens qui...
De ses proches, oui.
Il savait qu'il avait eu une saloperie d'hépatite il y a quelques années et que lui bouffait le foie. Mais moi, je pensais qu'il était en convalescence. Et puis, il était tellement sur le coup, tellement impliqué. À aucun moment, j'ai vu un homme fatigué à qui j'allais casser les pieds pour lui dire « Est-ce que tu crois que j'ai bien joué ? Est-ce que je dois faire ça ?» Jamais, jamais. Pendant la préparation, jusqu'à la fin, il m'a appelé le lundi soir en me disant, écoute...
Peut-être que par pudeur, il cachait tout ça, pour
non,
justement
non,
pas...
Non, non, non. Moi, je me suis renseigné depuis, encore une fois, et non, il ne pensait pas. Il a même dit, sa fille devait venir le jour où il est mort, il a même dit au... écoute, je vais me reposer un peu au producteur mercredi, c'est parce qu'il est mort jeudi, parce que demain, ma fille vient, j'aimerais bien être un peu en forme, quoi. Donc ça prouve bien que ce pauvre homme ne savait pas ce qui allait lui... arrivé.
En tout cas, il nous offre avec vous un très beau film que vous avez encore une fois signé, l'adaptation en tout cas de ce roman de Ian Levinson. Dans le casting, Romain Duris, pour la première fois, vous jouez à ses côtés, Alice Belaïdi, Gustave Carverne, Alex Luce, tout le monde est absolument parfait dans ce casting. La bande, on chantait Zach Varoum parce que la bande originale aussi est jouissive dans ce film, ce célèbre Varoum et Zach Varoum. Vous demandez, vous êtes un mafieux, un petit voyou. Alors ça se passe. La situation se passe. Vous êtes tourné en Belgique. Ça se veut dans le nord de la France.
C'est une histoire assez marrante en deux mots. Quand je l'ai écrit, je me disais il faut que ça soit pour qu'il y ait un peu d'exotisme quand même, parce que quand on lit le roman, nous Français, on n'est pas tout à fait. Dans cette réalité, mais en même temps, c'est la même chose qui se passe, c'est-à-dire c'est les gens qui restent sur le carreau. Donc, je me disais, je vais le situer le plus près possible de la Belgique, donc dans le nord, parce que il y a un exotisme pour nous Français un exotisme francophone en Belgique.
Vous voulez dire que le Nord n'est pas en France?
Non.
Si vous dites dans le Nord, il y a un exotisme pour nous Français.
Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Je voulais le situer dans le Nord, le plus près possible de la Belgique, parce qu'il y a en Belgique un exotisme.
Ah, okay.
Un exotisme qu'on ressent parce que c'est francophone et puis en même temps les Belges ils sont plus sympas que nous, d'abord ils sont moins agressifs et puis il y a une autre imaginaire, ils sont un peu beaucoup. Enfin, quand on voit le surréalisme belge, tout ça, c'est les comédies belges.
C'est arrivé près de chez vous.
C'est incroyable, voilà, ouais. Les convoyeurs attendent. Moi, c'est un univers qui me plaît
même
beaucoup.
Striptease.
même striptease. Et alors, coup de peau, si j'ose dire, personne n'a voulu, dans les chaînes françaises, coproduire le film. Non, on nous a dit ça ressemble aux frères Cohen, on n'aime pas les frères Cohen, alors... Parce que comme,
donc Yanni, TF1, je M6, ce service public, Canal, tout ça,
non, TF1, c'est normal, c'est pas un film pour eux, alors ça, je peux pas leur reprocher.
D'accord.
On a peut-être Canal, mais sur le service public, on n'a pas réussi. Donc le film, il était au point mort. Et puis d'un seul coup, il y a un producteur belge qui a dit, moi ça m'intéresse, je vais le produire. Donc j'ai été employé par une production belge pour le tourner là-bas. Et ça a été une grande joie pour moi parce que je me dis, c'est super, c'est exactement ce que j'aurais voulu faire.
Non, mais c'est en tout cas un très bon film avec cet humour grinçant mais et noir. On va reprendre l'humour grinçant, c'est sur la fiche, j'espère, l'humour grinçant.
Okay. Oui, je sais. Où le meurtre devient un moment d'égarement, comme le dit Romain Duris.
C'est vrai, il dit ça aussi. Ouais, mais c'est ça.
Oui, je lui réponds, on ne doit pas avoir le même vocabulaire.
Il y a une phrase aussi que j'ai adorée dans le film, qui est sûrement l'une des plus belles phrases du film. T'aimes les pâtes, ça dépend de la sauce. c'est le climax.
J'en étais sûr.
C'est le climax.
Je comprends.
Ah ouais, non, tu vois. Voici l'humeur de Daniel Morin.
Elle est bonne, cette humeur. Elle est bonne. Oui, je suis heureux, Nagui.
Ça se voit.
Oui, de très bonne humeur. Fini les vacances, oui. Fini ces vacances synonymes de promiscuité au soleil, de séances de transpiration collective avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis. Des gens avec qui on sympathise pour de mauvaises raisons. Des gens avec qui on finit par faire l'amour sur des malentendus aussi idiots qu'alcoolisés. Enfin, c'est de quoi je parle, Nagui. Hein. Pas à vous que je vais apprendre ces petits tracas estivaux, vous qu'on surnomme chaque été depuis plus de 30 ans le Ramsès Sifredi de la région PACA. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, je suis content d'être là.
Ramsès Sifredi, je fais l'amour de profil, c'est ça?
Voilà, et avec un très long menton. Je suis content d'être là pour la nouvelle formule de la bande originale. Oui, on accueille un nouveau. Oui, c'est lui la nouvelle formule, c'est Tom Villa. Bonjour Tom.
Bonjour Daniel.
Bonjour, bienvenue dans la bande originale. Merci. Je suis content parce que d'abord, je vous trouve très très beau, très séduisant. Je trouve que vous avez une qualité de peau remarquable. Je vous trouve très très beau, du coup, autour de cette table, je me sens beaucoup moins seul. Moi. Alors, je ne sais pas si tu connais les gens autour de la table, Tom.
Mal.
Bon, en même temps, pas besoin de connaître tout le monde. Hein. Le plus important, c'est lui. Alors lui, c'est Nagui. Alors Nagui, comme ça, il a l'air sympa. Voilà. Bon. Bienvenue à toi, Tom.
J'ai déjà mal.
Oh merde.
Alors, Fred Sigrist en a parlé. On sait d'où tu viens. On sait pour qui t'as travaillé. On sait dans quelle série tu as tourné. C'est à quel point il est humiliant de se faire épiler toutes les semaines. Tout ça pour aller se faire filmer sous la douche d'Investir Moite, sous l'œil exorbité d'un journaliste animateur la bave aux lèvres. En tout cas, ici, sois rassuré, tu ne cours pas les mêmes dangers. Nagui ne te demandera pas de te mettre nu. Il ne le fait pas. En revanche, il exigera sûrement que tu sois là dans le bureau le mercredi à 10h à sa sortie de bain hebdomadaire pour le sécher. C'est une tradition. Ne lui refuse pas ce petit plaisir. Voilà tout ça pour dire, Tom, qu'ici, tu es plus que bienvenu. Alors, de mon côté, j'ai suivi l'actualité de loin, de très très loin, cet été. Bien sûr, il y a eu des dossiers hyper chauds. Burkini, le retour de Sarkozy, les deux jumelles suédoises du camping qui ont étrangement refusé mes avances. Trois dossiers de première bourre, mais j'étais loin d'imaginer qu'il arriverait ce qui est arrivé. Le coup de tonnerre 2016, le séisme du mois d'août. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à être tombé de ma chaise. Tout le monde a pris la news en pleine gueule. Une news, une info à peine croyable, une info à laquelle Patrick Cohen, le phénix de l'actu, a immédiatement réagi.
France Inter, Patrick Cohen, le 7-9.
Oui, on vient de l'apprendre, c'est sans doute la nouvelle de cette rentrée média. Richard Larnac, connu pour être
le plus grand pianiste du monde, n'ayons pas peur des mots, aurait, je dis bien, aurait rasé sa moustache. Alors, est-ce une conséquence de la canicule ou bien un geste fou de la part de cet homme un peu bourru, certes, mais pétri de talent? Bien sûr, toute la rédaction de France Inter vous tiendra informé heure par heure de l'évolution du dossier moustache.
Ouais.
Oh, classique.
Patrick Cohen, s'il vous plaît. C'est fou, c'est dingue, c'est ma boule, mais par contre, l'horreur c'est que c'est vrai, Richard Lornac s'est rasé la moustache, en termes techniques, la moustache mou. Alors, pour tout, cette info arrive comme un drame, un cataclysme. Richard Lornac, je vous le rappelle, portait la moustache depuis l'âge de 8 mois. Une moustache fournie, une moustache épaisse, qui jusqu'à 20 ans lui donnait des airs de Clark Gable, version La Grande Motte. Qui jusqu'à l'âge de 30 lui donnait des airs de Village People, version Lavandou. Qui jusqu'à ses 50 ans lui donnait des airs de routier croate en quête de frissons de parking. Et bref, une moustache qui lui allait si bien. Va-t-il relaisser pousser ce passeport de séduction, symbole criant d'une virilité tonitruante? Va-t-il continuer sa mutilation pileuse? On ne sait pas. Mais on suit le dossier. À demain.
La bande originale, le meilleur moment sur France Inter.
Michel Blanc, forcément une réaction sur cette actualité brûlante estivale, parce que vous-même, vous avez subi cette ablation de la moustache.
Oui. Et alors,
c'est une décision qui
il y a eu un acharnement thérapeutique pour la faire repousser, ouais. Parce que je l'avais coupée, rasée, après, je crois bien que c'est même après embrasser, non, après, excusez-moi, après, viens chez moi. Et c'était une...
Et je dis, toi, tu me fous voilà.
Exactement. Et c'était une... symboliquement, c'était une manière de vouloir échapper au petit personnage franchouillard moustachu. Quand j'ai écrit Marche à l'ombre, le producteur m'a dit non, mais il faut la laisser repousser parce que vous êtes quand même... C'est important qu'on retrouve le personnage. Je dis, bon, d'accord, alors, juste pour le film. Hein. Je l'ai donc laissé repousser, je l'ai rasé. 2 ans après, Bertrand Blier m'appelle pour me proposer une tenue de soirée, où je fais un travelo à la fin quand même, hein. Et il me dit, non, ce qui serait marrant, c'est que tu te laisses repousser la moustache. Et je l'ai laissé repousser pour la raser à la fin, etc. Puis à un moment, j'ai dit, non, maintenant on arrête. Hein. Mais c'est vrai.
Arrêtez,
j'aurais dû raser.
C'était une signature.
Mais... Bah, c'était, ouais, enfin bon, puis c'est.
Et vous avez essayé de faire pareil avec les cheveux ou pas?
Ouais, regardez.
Ah ouais. Ça marche, c'est en train de repousser.
Oui, il faut que je fasse attention demain parce que j'ai une télé.
Le 1er février, vous serez à l'affiche de Red Dingue, le film de et avec Danny Boone, avec un casting époustouflant. Tournage qui a eu lieu en Belgique aussi ou pas?
Ouais.
Ah bah, cinéma.
Depuis quelques temps, c'est. Je sais pas.
The place to be.
Y a que les, oui, il n'y a que mes impôts que je paye en France. Je dois être con.
Non.
Je fais l'inverse de.
Ouais,
non, et j'y tiens.
C'est bien. Voici le brûlon de culture de Leïla Kadour-Boudadi.
Michel Blanc, voici votre brouillon de culture. Je vous sors de la promo, je vous donne un bol d'air. C'est notre tête-à-tête culturel. Et rien de tel pour se mettre en jambe qu'un petit son. On remonte dans les années 70.
Un crime pareil le soir des élections, c'est du gâteau. À moins que ce soit qu'une simple affaire de mœurs.
La camionnette 57-63-Y69, c'est à vous?
Oui, pourquoi?
Est-ce que vous avez reconnu cet extrait de bande-annonce d'un film de Bertrand Tavernier sorti en 74? C'est L'horloger de Saint-Paul.
Ah oui, mais j'ai pas joué dedans. Moi, les films dans lesquels on m'a pas engagé, je m'intéresse
pas. C'était Philippe Noiret et Jean Rochefort.
C'était un film magnifique. Oui.
Et je vous en parle parce que, comme Jean-Jacques Rousseau, votre grand-père était horloger et vous en avez gardé en quelque sorte des stigmates.
Oui, je suis un mec exact et puis j'aime bien les montres. C'est con, hein.
Mais paradoxalement, celle que vous avez au poignet,
oui,
mais plutôt une montre connectée, oui,
ouais,
si
ouais.
Dire.
Mais je la mets pas pour sortir le soir.
D'accord.
Non, mais c'est vrai, j'ai même tendance des fois à m'interdire, comme on s'interdit de casino, je m'interdis d'horlogerie.
Ouais.
Parce que ça peut conduire à des dépenses colossales?
Pas colossales, non, parce que j'ai pas les moyens d'acheter des montres à 100 000 euros, n'est-ce pas? J'en ai porté une sur le film de Danny Boone, c'est un truc de fou. J'étais mort de trouille à l'idée que de pouvoir oublier de la laisser dans la caravane. C'est une folie furieuse. Hein. J'ai jamais vu ça sur un film. D'habitude, on a des pauvres imitations made in Taiwan pour faire semblant d'eux, parce que la production ne va pas investir là-dedans. Et là, lui, il a un pote qui est un horloger absolument incroyable, qui fait des trucs pièce par pièce, vous savez, des modèles uniques, voilà. Et quand j'ai appris le prix de ce que j'avais autour du poignet pour jouer la comédie, c'est de la terreur.
Vous n'avez même pas osé regarder l'heure.
Ah non, mais je la regardais souvent, au contraire.
Pour amortir.
Bah ouais, à ce prix-là.
Et ça a développé chez vous un rapport à la précision, à la ponctualité?
Peut-être, oui, je suis en principe assez précis, ouais. Et chiant pour les gens qui sont en retard.
À présent, je suis allé chercher la voix d'un homme que vous connaissez et avec qui vous avez travaillé.
So I was interested in the fact that literature and the cinema and the theatre told stories about people who hadn't
Anif,
turned up before.
Ouais. Anif Qureshi.
C'est la voix d'Anif Qureshi, avec qui vous avez co-signé le scénario de votre troisième film.
C'était une idée originale d'Anif. Moi, j'avais adoré son roman Le Bouddha de banlieue, qui est une merveille d'humour et en même temps de documentation sur un milieu certes très fermé, qui est le milieu indien, enfin pakistanais en l'occurrence à Londres, mais avec un humour fou. Et donc je m'étais dit, oh, je ferais bien un film à Londres, j'aime tellement cette ville. Et si on demandait à Anif Qureshi de trouver une idée de base, et il a trouvé cette idée, l'idée de départ.
Qui a donné Mauvaise Passe avec Daniel Auteuil.
Et qui s'est cassé la gueule.
Mais qui était un super beauté.
Ben, c'est-à-dire que
qui était avant-gardiste, parler de la prostitution masculine. Le film est sorti en 99.
Alors, bon, ça, je sais pas. Mais moi, j'adore le film. J'ai adoré le faire parce que les acteurs de Daniel Auteuil, quasi seul acteur français, dans le film, à tous les autres acteurs anglais, c'était un bonheur absolu.
Alors, pour finir, ma prescription culturelle pour vous, je vous fais un petit conseil culture.
Ça,
voilà.
C'est gentil.
Quand j'ai vu votre personnage dans le film, j'ai pensé à un mafieux britannique, un certain Dominic Noonan. C'est un loustique à la tête chauve.
Comment vous avez lu des choses que j'ai dites dans les interviews?
Non.
Bah, continuez, je vais vous expliquer pourquoi.
C'est vrai. Donc, pour le présenter, ce personnage, costard, cravate, crâne chauve. Il est à la tête d'un clan le plus puissant de la pègre de Manchester. Il a plus de 40 condamnations à son actif. Et il y a un documentaire qui lui est consacré qui est génial. C'est A Very British Gangster, qui a été réalisé par un grand journaliste d'investigation britannique, Donald McIntyre. Et il a pour devise les mots suivants.
Many years ago, my dad used to say to me, just look after those that look after you. Fuck off those that fuck off you.
En gros, son père lui raconte... Lutte pour ceux qui luttent pour toi, flingue ceux qui veulent te flinguer. Et le documentaire est étonnant, puisqu'il... vous le connaissez.
Alors, c'est un truc inouï. J'ai écrit le scénario. On m'a persuadé de jouer le personnage. On a discuté avec Pascal comment serait le personnage. Et un soir, je regarde la télé, je tombe là-dessus. Mais vraiment, on était en pleine préparation, choix des costumes et tout ça. J'appelle Pascal, je lui dis, il faut que tu te procures là, ça, que tu regardes, parce que je pense que le look du mec, c'est exactement ce qu'on cherche. En plus, il y a une scène où il joue avec son chien, ce qui est à la fois dans le film et ce qui est dans le roman aussi, je ne l'ai pas inventé ça. Il boit des bières avec ses potes, et c'est un type extraordinairement dangereux.
Il raconte tout.
Et il est très sympathique, d'une certaine manière.
Ouais.
Et je me suis dit, mais c'est le personnage.
Ça s'appelle comment, ce doc ?
A Very British Gangster. Ah ouais, vous pouvez le trouver en ligne. Et il raconte absolument tout face caméra. Il raconte, par exemple, qu'en guise de représailles, il n'a pas hésité à faire subir à son ennemi un acte d'une violence incroyable. Il a pris son chien, il lui a coupé la tête et il lui a posé la tête sur la table.
Voilà.
Et depuis, il n'a plus de problème.
12h24, si vous êtes à table, bon appétit.
Rappelle des scènes de films du Parrain. Enfin, on se dit
tout
d'un coup que
C'est la tête de cheval.
Que la réalité surpasse.
Ça dépend de la taille du chien.
C'est vrai. Voilà, c'était mon conseil culture. Bon, j'en trouverai un autre la prochaine fois que vous reviendrez.
Non, mais c'est bien que vous parliez de ça, parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est incroyable.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
La musique de Tété va résonner avec Pierrot Lunaire. Tété en live.
L'histoire d'un ange déchu, perdu entre vice et vertu. Question du jour, c'est salutaire. Qu'ai-je fait de mon Pierrot Lunaire? Tant d'indolence bafouée, de joie ou pilori, clouée. c'est faire le lit de la misère. Qu'ai-je fait de mon pierron lunaire? Où diable l'ai-je donc rangé? L'enfant d'hier et sa lumière. À Paris, Dublin, au Tanger. Qu'ai-je fait de mon pierron lunaire? Qu'ai-je fait de mon pierron lunaire? Na 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 na. Acculé, j'ai mis sur le coup les meilleurs limiers du secteur. Fox, Mulder, NSA et tout. J'ai les moyens, je connais l'auteur. Je confesse, on l'aura compris. L'ange loup déchu, c'est Bibi. Chanteur sous vide en quarantaine.
France Inter, la bande originale. Le best-of.
La cascade de questions, on va commencer tout de suite des questions courtes avec des réponses courtes. Daniel Morin, tiens.
Michel, vous auriez 6000 euros à dépenser comme ça pour faire abattre un collègue comédien, ce serait qui?
Alors, Depardieu, c'est plus cher parce qu'il faut plusieurs balles. Je vais réfléchir.
Frédéric Sirius.
Un réalisateur qui vous impressionne au point de ne pas oser ou avoir osé lui dire que vous vouliez tourner avec lui?
Ah oui, il y avait René, mais là c'est trop tard. Il y a Ozon. Justement, j'ose pas.
Vous les avez croisés sans jamais oser dire.
René, jamais. Ozon, j'ai même dîné, je crois, un soir avec lui. Mais vous savez, vous faites partie de l'imaginaire d'un réalisateur ou pas. Mmh. C'est pas une question de talent, pas talent, machin. Mais voilà, je dois pas faire partie de son imaginaire, de même que je ne dois pas faire partie de l'imaginaire de Jacques Audiard. Et je dis ça sans aucune ni aigreur ni. Moi, il y a des acteurs qui font pas partie de mon imaginaire. Voilà.
On demandera directement à François Ozon qui sera notre invité. On va lui demander, il vous répondra sur cette antenne.
Il va nous présenter France bientôt.
Leïla.
Un tic de langage, Michel Blanc.
J'en ai plein. Vous trouverez. Repassons
la bande.
En ce moment, c'est humour grinçant surtout qui revient.
C'est grincé. Oui, non, mais je ne sais pas.
Tom Villa.
Vous qui aimez le piano, Michel Blanc, vous préférez Richard Clayderman ou Jean Schultes?
Eh bien, je préfère. Je suis obligé de choisir entre les deux.
Il n'y a que deux choix.
Ah bah ouais, mais on a le droit d'introduire un troisième. Un troisième Gus.
Trop tard.
Non, mais non.
Tom.
Le premier morceau que vous avez su jouer au piano.
Une valse de Chopin, je pense.
Leïla.
Michel, le troisième Gus, vite.
Horowitz.
Ah, bah voilà.
Alors, un acteur que vous rêveriez de diriger?
Mais il y en a plein. Il y en a avec qui je l'ai déjà fait et je compte bien le refaire, notamment ceux pour qui j'écris en ce moment.
C'est
des gens comme Jacques Dutronc, Charlotte Rampling, Carole Bouquet, mais j'ai Karine Viard, enfin bref.
Daniel Morin, oui. Des excuses à présenter.
Bah, désolé pour l'amicale des profs retraités cégétistes et intermittents de la RATP, soit en gros 75-76% de nos auditeurs qui s'est senti insulté par Tom Villa. Franchement, bande de feignasses, vous n'avez aucun humour. Désolé pour Patrick, notre ami, Patrick Balkany, je précise, Jean-Marc Morandini, Jean-Marie Le Pen, Gérard Jugnot et toutes les grandes figures françaises qui ont été attaquées durant l'émission. Il n'y a plus de respect pour les grands hommes, je vous le dis. Enfin, désolé pour tous les précaires et autres crevards qui nous écoutent et qui n'ont même pas 6000 balles à foutre pour tuer leur conjoint. Faites un effort, bande de quignons.
Voilà, c'était le meilleur de la bande originale. C'est fini pour aujourd'hui, mais rassurez-vous, rendez-vous demain, même heure, même endroit, même adresse. En attendant, l'heure des carnets de campagne avec Philippe Bertrand. Bonne journée sur Inter.